Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici dans ce carême en train de progresser et il nous est donné aujourd'hui un dimanche un peu austère avant le dimanche de l'étaré, dimanche prochain, où le violet tirera sur le clair et non pas sur le rose. Voilà. Mais en ce dimanche, nous avons des annonces beaucoup plus austères puisque nous sommes contraints d'évoquer ce que les démons, les esprits impurs peuvent provoquer chez l'homme et ce que l'homme suit sur cette pente. Il faut bien en parler un moment un peu directement et pendant ce carême, c'est bien le moment. Alors, pour écouter Saint Paul qui nous prépare à écouter notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre que le péché de sensualité, d'utilisation de notre corps et du plaisir corporel légitime dans le mariage, en dehors du mariage ou dans la crainte d'avoir des enfants dans l'acte conjugal, eh bien, de nos jours, est devenu très banal. Ce qui fait que, comme on le dit souvent, le discours de l'Église est inaudible. Mais ce n'est pas le discours de l'Église. C'est la nature humaine. Une nature humaine qui est en effet corps et esprit. Ce qui fait que nous allons réfléchir sur notre corps et sur notre esprit, notre âme qui anime ce corps. Et nous devrons justement savoir que ce que les esprits, alors pas seulement humains, mais angéliques, voire démoniaques, ont comme influence sur cette vie humaine. Mais tout d'abord, nous devons bien comprendre que, en effet, nous avons un corps tiré de la vie terrestre. Et que dans la foi de l'Église, dans la foi biblique, même si c'est aussi inaudible de nos jours, nous venons d'un premier homme et d'une première femme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons le même sang. Quels que soient nos déplacements à travers les siècles et à travers les continents, notre apparence extérieure, la couleur de notre peau, la façon dont nos cheveux pousse est tout à fait accidentelle par rapport au patrimoine génétique que nous avons reçu d'un couple unique. C'est ce qu'on appelle le monogénisme et le fait de dire qu'Adam et Ève ne sont pas une légende, mais un réel couple créé. Je sais, c'est inaudible, mais figurez-vous que c'est de foi. C'est un dogme de l'Église et que même un évêque et même le pape ne peut contester directement, sans tomber dans l'hérésie, ce qui est très embêtant pour un pape, parce que pour qualifier un pape d'hérétique, il faut que les cardinaux se rassemblent à nouveau, élisent un pape, et que ce nouveau pape puisse juger le précédent. Donc imaginez un peu. Et retournons à notre corps, corps tiré du monde animal. Avec des millions d'années et le hasard, non plus. L'évolutionnisme par le hasard et par le temps est contraire à la foi biblique. Alors, comment Dieu nous a tirés du limon de la terre, de l'argile de la terre? Eh bien, que nous ayons été créés directement, d'espèce en espèce, ou qu'il y ait eu un processus de transformation, il a été conduit, comme disent les Américains, par un dessin intelligent. Intelligent design. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a les yeux en face des trous, c'est par la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Pie XII nous disait que Dieu avait pu prendre un animal, avec toute son origine animale, et infuser un esprit dans ce corps animal, ce qui a fait Adam, d'ailleurs à l'âge adulte. Ensuite, il a créé Ève, de la chair d'Adam. Mais si c'est un peu trop éloigné et inaudible de nos jours, faisons passer le temps et arrivons à notre propre corps maintenant. Il est bien évident que nous avons un corps animal. Il est bien évident que nous naissons d'un homme et d'une femme. Et quels que soient les moyens possibles, nous devrons toujours prendre les cellules d'un homme et les cellules d'une femme pour faire un enfant. Toujours. Alors, ce caractère sexué qui est notre corps, eh bien, nous pousse à notre union. Union qui permet à l'espèce humaine de perdurer à travers le temps. Et cette union, elle est liée à notre intelligence et à notre esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas seulement des petits, mais des enfants, et que c'est sur des années, alors même qu'ils sont sevrés, que nous devons nous occuper d'eux. Et ainsi, cette sexualité humaine est profondément liée à l'éducation humaine. On pourra sortir toutes les blessures et les épreuves de la vie, d'avoir perdu son père ou sa mère, de ne pas les avoir connus. C'est une réalité. Et cette réalité, elle est dans la famille et elle a un chemin. Et on ne peut pas, à partir des épreuves, des séparations, des divorces, des violences, remettre en cause non pas seulement un idéal, mais vraiment notre nature humaine. Nous sommes nés d'un homme et d'une femme et nous voulons avoir notre père et notre mère, vieillir, les voir. Il y a même un ordre naturel chronologique qui, lorsqu'il n'est pas respecté par la faiblesse de cette vie terrestre, fait énormément souffrir lorsque des parents perdent leurs enfants, alors que ce sont les parents normalement qui devraient mourir avant leurs enfants. Mais cela est placé devant nous avec une grande puissance. Et le monde contemporain est délirant. On est obsédé par notre beauté, on est obsédé par notre santé, par nos performances. Et saint Paul, déjà il y a 2000 ans, nous disait que c'était folie et que c'était délire. Mais est-ce le péché le pire? Et là j'en viens aux anges. Parce que les anges, eux, lorsqu'ils nous voient avec notre nature humaine, les uns sont serviteurs de Dieu et nous aiment. Parmi eux, il y a les anges gardiens. Et depuis notre conception, ils sont à nos côtés. Ils nous voient à tout moment. Il n'est pas question de pudeur avec un ange gardien. Ils nous aiment. Ils ont le même regard que nos parents, qu'une maman qui lave son petit bébé. Mais ils ont ce même regard de pudeur, de respect et d'amour sur des années et des années. Ils sont là, si nous atteignons une certaine vieillesse, pour être à nos côtés. Et notre vieux corps ne les dégoûte pas, parce qu'ils nous aiment. Et voilà ce corps. Voilà ce corps qui pèse sur l'âme, en effet. Mais quel est le plus grand péché ? Ce n'est pas nos troubles de nos âges, de notre adolescence, de nos instincts, de notre sensualité. C'est ce qui permet de céder à ces tentations qui sont souvent même corporelles et physiologiques. Qu'est-ce qui permet trop facilement de céder à cette sensualité ? Notre indifférence, notre insouciance, notre manque de volonté d'user justement de toutes nos puissances corporelles, intellectuelles et de volonté pour sortir de nous-mêmes, pour utiliser ce corps et cette âme pour construire, pour aimer, pour être un père, pour être une mère, pour pouvoir secourir, pour avoir des mains pour prendre dans ses bras et des mains pour soigner avec le temps et avec l'âge, pour avoir un visage pour sourire et pour avoir un visage pour regarder et pour écouter à travers les années. Et alors, lorsque nous confessons humblement nos fautes contre la pureté, eh bien nous devons bien comprendre que Dieu n'est pas là pour nous humilier, mais pour nous demander justement d'aller plus loin, de bien saisir le caractère bien temporaire de tous ces instants, pour le caractère intemporel et éternel de l'amour humain. Voilà qui est difficile, surtout dans cette multitude d'images qui nous entourent. Mais sachez qu'il y a 50 ans encore, peut-être même il y a 40 ans, nous n'avions pas autant d'images. Et qu'il y a 100 ans, et qu'il y a 500 ans, et que les hommes, les femmes avaient ces mêmes faiblesses. Mais en effet, avec cette multitude d'images et de sollicitations, nous sommes comme perdus. Alors un carême, c'est le moment de se ressaisir, c'est le moment de passer moins de temps sur Internet, même pour regarder des actualités qui sont finalement bien ordinaires, et pour vivre et s'intéresser à ce qui est beau, à des êtres humains qui sont à nos côtés et avec qui nous ne parlons pas assez, parce que nous passons trop de temps dans le virtuel. Un moment où même des jeunes bobos mettent dans leur restaurant bio leur portable dans une pile au milieu de la table, et c'est le premier qui craque et qui prend le portable pour voir s'il a un mail ou un SMS qui doit payer tout le repas du soir. Alors si même les bobos font ça, normalement, nous devrions avoir le courage de prendre du temps pour rester en silence. Ne serait-ce que 15 minutes par jour, aller 10, et puis prier notre chapelet, le découvrir, le redécouvrir, et nous tourner vers un homme comme Saint Joseph. Regardez cet homme, si fort, si actif, humble, présent, effacé, présent. Il a, parce qu'il a eu la responsabilité de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, il est patron de la Sainte Église. Il est celui qui protège encore le corps de Jésus. La tête de ce corps, c'est Jésus. Le cou de ce corps, c'est la Vierge Marie. Et le protecteur du corps, par sa prière et sa bonté et son humilité, c'est Saint Joseph. Oui, nous ne parlons pas assez à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui sont dans la vie éternelle et qui sont à nos côtés pour prier pour nous, pour nous montrer leur exemple et pour nous tirer vers le haut, pour que nous puissions utiliser notre corps et notre âme selon la volonté de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.